Merci beaucoup au groupe de louanges. Merci aussi pour notre frère Ghislain pour la conduite. Je crois que Dieu continue son travail en nous pour nous réhabiliter, pour nous permettre de grandir, de progresser aussi dans notre vie spirituelle. Donc, on est toujours un peu dans le thème un peu de l'écoute et on a vu qu'après l'écoute, c'était l'obéissance. Comme le titre le dit, écoutez Dieu pour lui obéir. Écoutez Dieu pour lui obéir. Si on écoute vraiment Dieu nous parler, si on a compris de ce qu'il nous attendait de nous, et que si on reste sur place, si on écoute et on reste sur place, on ne fait rien, on dans l'attente ou dans l'inertie, on n'accomplit pas ce que le Seigneur veut. Mais avant d'aller dans le sujet un peu de l'obéissance de la deuxième partie, on va voir quelques points que nous avons vus dans ces dernières semaines sur l'écoute. C'est important de se rappeler de temps en temps, parce que c'est vrai que des fois, les prédications peut-être un peu grandes, on peut peut-être pas forcément tout se rappeler. Voilà pourquoi de l'importance de revenir sur quelques points importants. Donc, les obstacles, on a vu à un moment donné les obstacles qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Il y en a plusieurs. Vous pouvez marquer, il y a derrière aussi sur la table des petites feuilles où vous pouvez marquer les sujets et aussi donc les paroles, les versets bibliques aussi. Psaume 66, 18 le dit, « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Donc certains ont un péché non confessé leur empêchant d'entendre Dieu. Ça arrive parce que si Dieu voit que, justement, il y a quelque chose dans notre vie qui ne plaît pas à Dieu, alors il ne pourra pas forcément bien nous parler. Peut-être qu'il va nous parler, mais à cause du péché qui enlève cette écoute, qui enlève vraiment ce regard direct avec Dieu, on n'arrivera pas à en comprendre, à entendre ce que Dieu veut nous dire. Certains sont incrédules. Certains, ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu peut leur parler. Ne croyez pas que Dieu peut leur faire un miracle. Dieu veut beaucoup plus que juste une relation avec nous. Il veut vraiment un dialogue. Il veut partager avec nous. Certains craignent que cela mène au chaos dans l'Église. C'est vrai que ça peut amener un certain chaos si chacun commence à dire « Dieu m'a dit hein. ». Des fois, on entend souvent ça « Dieu m'a dit ». C'est vrai que Dieu parle. Mais souvent, des fois, peut-être, on ne sait pas toujours si c'est Dieu qui parle ou si c'est peut-être notre propre pensée. Comme on a dit souvent, Dieu parle, oui, à travers des personnes, Dieu parle pour l'Église, mais Dieu parle tous dans la même direction. Si nous avons plusieurs avis différents, ça veut dire qu'on ne vit pas réellement selon Dieu. Il y a encore peut-être besoin d'entendre, d'écouter réellement Dieu pour qu'on puisse tous aller dans la même direction. Certains sont trop occupés pour passer du temps à écouter Dieu. Ça, c'est vraiment le mal du siècle, hein? On est trop occupé. Seigneur, tu vois mon horaire, mon programme, j'ai tellement de choses. Ce soir, je vais prendre le temps avec toi. Puis ce soir, ben, arrivent certaines choses et comme ça. Et à la fin, on n'a pas pris le temps avec Dieu. C'est important d'être resté disponible pour que le Seigneur puisse prendre le temps de nous parler. Certains parlent au lieu d'écouter. C'est assez fréquent. On est devant Dieu, puis là, on commence à prier. Donc, pour nos besoins, Seigneur, tu sais tout ça. Dieu veut nous entendre. Dieu veut connaître ce qu'on vit dans notre vie. Mais à un moment donné, il veut dire aussi, arrête-toi. Puis je veux te parler. Prends du temps, calme-toi, puis moi je veux aussi te parler. Une autre raison importante, nous sommes bloqués par Satan qui essaye de nous empêcher d'entendre. L'ennemi peut très bien nous empêcher d'entendre Dieu. Parce qu'il sait que lorsqu'on entend Dieu, lorsqu'on agit selon le Seigneur, notre vie est changée et transformée. Voilà pourquoi que justement l'ennemi va essayer par toutes sortes de façons bloquer cette écoute, bloquer cette relation intime avec notre Seigneur. Certains aussi, peut-être Satan va leur donner de sursurer sur dans leur oreille, peut-être des choses, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas assez bien pour la société, personne ne t'aime, tu n'arriveras pas à faire telle chose. Et des fois on entend ces choses dans notre esprit, et puis on y croit, à force de répéter, on y croit. Au lieu de laisser le Seigneur agir. Certains craignent confondre leurs pensées avec celles de Dieu. Ça, c'est une raison très fréquente du pourquoi on n'entend pas Dieu parler. Parce qu'on ne sait pas si c'est Dieu qui parle ou si c'est notre pensée. Et si on n'est pas sûr, mais il faut continuer d'écouter pour que Dieu puisse continuer de nous parler. Puis à un moment donné, on va discerner ce que le Seigneur veut nous dire. La semaine passée, justement, nous avons commencé à parler sur l'importance de l'obéissance. Et on avait vu le premier point, que l'obéissance vaut mieux que la foi. Puisque nous avons vu que justement, après l'écoute, on ne peut pas rester dans l'inertie, on ne peut pas rester simplement dans l'attente. On doit obéir, on doit obéir. Et on a vu dans le récit de Luc 17, où Jésus parle justement des occasions de chute et du pardon. Et on voit que Jésus va dire qu'il faut pardonner des fois jusqu'à 7 fois par jour à la même personne. Et au verset 5, on a l'impression qu'il y a un autre paragraphe, quelque chose d'autre qui arrive. Les disciples demandent à Jésus, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » On voit dans ce verset que les disciples, devant tout ce qu'ils entendent, ils ont l'impression de dire « Augmente notre foi. » Mais Jésus leur disait simplement « Obéis. » Tu n'as pas besoin d'avoir plus de foi pour pardonner. Si Dieu te dit « Pardonne à telle personne », tu n'as pas besoin d'avoir de la foi pour savoir s'il faut pardonner. Nous avons vu aussi justement avec le récit des 10 lépreux qui sont venus vers Jésus pour être guéris. Et Jésus leur a dit simplement « Allez vers le sacrificateur ». Et durant le temps de route vers le sacrificateur, ils furent guéris. Ils auraient très bien dit « Mais Jésus, guéris-nous sur place, tu l'as déjà fait dans le passé, touche-nous, mets quelque chose sur nous, fais quelque chose, puis qu'on soit guéris. » Il fallait qu'ils obéissent. Et leur pas d'obéissance les a guéris. Souvent, des fois, Dieu nous demande de faire quelque chose. Et de ce qu'il attend de nous, c'est qu'on obéisse tout simplement. Souvent, ce n'est pas une question de foi. Est-ce que j'ai assez de foi pour faire ce que Dieu me demande? Oui, c'est vrai que de marcher peut-être dans un pas d'obéissance, dans quelque chose que Dieu nous demande, après, il y a le pas de foi d'avancer, même si on ne voit pas réellement ce qui se passe devant nous. Mais lorsque le Seigneur nous dit « va », ou lorsque le Seigneur nous dit « fais telle chose », on n'a pas besoin d'avoir de la foi pour le faire, simplement de l'obéissance. Le deuxième aspect que nous avons vu justement aussi la semaine passée, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On avait vu l'exemple du roi Saül. Rappelez-vous, Saül qui a reçu la visite de Samuel le prophète, et Samuel a été très précis, il lui a dit « Tu vas vouer à l'interdit le peuple Amalek et le roi et tous les animaux, tu vas massacrer toutes les personnes. » C'est vrai que c'est un peu cruel comme situation. Mais ce peuple s'était opposé à Dieu et au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient venus dans le pays de Canaan. Donc le roi Saül aussitôt a mis en action cette parole, a pris ses guerriers et a été faire la guerre aux Amalécites. Mais il épargna le roi et une partie des animaux, justement pour sacrifier ces animaux en reconnaissance à Dieu. Et voici ce que Samuel va dire lorsqu'il revient vers Saül, au verset 22. Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ?» Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. On pourrait dire que justement l'intention de Saül était bonne. Il voulait prendre les meilleurs animaux pour les sacrifier en reconnaissance au Seigneur. Mais ce n'est pas ce qu'il avait reçu comme ordre de Samuel, de la part de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu demande doit être complète. Pas juste quand ça nous arrange, ou lorsque on pense peut-être vouloir plaire à Dieu. Lorsque Dieu nous demande d'obéir à la parole qu'il nous donne, ce n'est pas à moitié, ou même à 99%, mais il demande à obéir à 100%. Ce qui arrive, c'est que lorsque nous péchons, le Saint-Esprit va nous convaincre nos cœurs que nous sommes dans l'erreur. Mais si on ne se repent pas, comme Saül, même s'il a voulu demander la grâce de Dieu, mais peut-être sa repentance n'était pas sincère. Si on ne se repent pas, il y a un voile de tromperie qui commence à se mettre devant nous, qui commence à séduire notre cœur, et qui fait qu'à un moment donné, lorsque le péché arrive, on n'arrive plus à discerner la voix de Dieu. On n'arrive plus à obéir entièrement au Seigneur. Alors ce matin, on va continuer dans le troisième aspect, qui est l'obéissance et la mesure de notre amour pour Dieu. L'obéissance et la mesure de notre amour pour Dieu. Rappelez-vous, il y a un pharisien qui a demandé à Jésus lequel des commandements était le plus grand. Jésus a répondu dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. » Et il y a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc on connaît que le premier commandement, « Tu aimeras ton Dieu » vient justement des 10 commandements que Moïse a reçus sur la montagne du Sinaï pour le peuple d'Israël. Jésus va rajouter le deuxième commandement qui dit qu'il est semblable au premier. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc tous les lois, tous les commandements que Dieu a donnés sont regroupés dans ces deux commandements. Ils résument comment on doit aimer Dieu et comment on doit aimer notre prochain. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer l'amour pour Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment le mesurer? Et Jésus a répondu à cette question pour nous. Regardez, Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Il dit, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Donc, notre amour pour le Seigneur se mesure par notre obéissance. On peut aimer Dieu lorsque nous sommes dans sa présence, comme ce matin dans le temps d'adoration, de louange, et même très, très, très émotif devant Dieu. C'est bon d'aimer Dieu et de le ressentir, d'exprimer par nos bouches et par nos cœurs. Mais comme le premier texte nous le dit dans Matthieu 22, qui on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Ça regroupe que nous devons aimer Dieu de tout notre être, d'aimer Dieu avec notre âme, qui est notre côté émotionnel, et d'aimer avec notre esprit. Il y a corps, âme, esprit qui donnent d'aimer Dieu par toutes les façons. Le deuxième verset que nous avons lu dans Jean 14 démontre la meilleure façon justement d'aimer Dieu, c'est de lui obéir. Celui qui retient mes commandements et les applique. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples. Il ne suffit pas de dire à Dieu, je t'aime, je te remercie pour ton amour envers moi et tout ce que tu fais pour moi. Mais si je veux réellement aimer Dieu, je dois lui dire aussi, Dieu, je t'aime, je vais te prouver en suivant tes commandements et en les mettant en pratique. Voilà le véritable signe d'un chrétien. C'est quelqu'un qui aime Dieu et qui applique les commandements de Dieu dans sa vie de tous les jours. Et Jésus va aller plus loin pour prouver notre amour envers Dieu. Il dit, c'est d'aimer notre prochain comme soi-même. Généralement, en tant que personne, nous nous aimons parce que nous faisons du bien. On prend soin de nous, on soin prend de notre personne. Si nous disons réellement aimer Dieu et le suivre, et si nous n'aimons pas notre prochain, alors nous n'aimons pas réellement Dieu. C'est dans la pratique au quotidien de cet amour que nous allons mesurer justement notre amour envers Dieu. Ce n'est plus juste de la théorie. Oui, j'aime Dieu parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il a fait telle chose pour moi, parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela. Mais notre mesure de l'amour de Dieu va se voir dans notre prochain. Si on aime notre frère ou sœur dans l'Église comme notre prochain, alors on pratique les commandements de Dieu et nous aimons Dieu. Si nous aimons notre voisin, notre collègue de travail, celui que Dieu met à côté de nous, même si peut-être c'est plus difficile, d'un amour réel qui démontre Jésus-Christ, alors nous aimons Dieu selon ce que Jésus enseigne. Donc Dieu mesure notre amour pour lui par notre obéissance. Le quatrième point est l'obéissance est le moyen de vivre l'amitié et l'amour intime que Dieu a pour nous. L'obéissance est le moyen de vivre l'amitié et l'amour intime que Dieu a pour nous. Regardez Jean chapitre 15, verset 10. Il dit, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi, même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. » Jésus a dit ces paroles quelques instants avant d'être crucifié, avant d'être abandonné par ses amis, par ses disciples. Et il était jusqu'au bout de l'obéissance à son Père, d'aller sur la croix pour mourir pour nos péchés. Si vous regardez ce verset, un petit mot au début, au moins dans le côté français, c'est « si ». Ça veut dire que c'est conditionnel. Nous ferons l'expérience de plus grande mesure de son amour si nous lui obéissons. Encore une fois, nous voyons l'impact, l'importance de l'obéissance. il y a cette condition que si nous obéissons réellement à ses commandements, alors nous allons demeurer dans son amour. Quand il parle ici des commandements, ce n'est pas des commandements de la loi juive, mais encore une fois, les deux commandements aussi que Dieu, que Jésus a donné aussi à une personne que nous avons lue tout à l'heure. Et aussi le commandement de faire la volonté de Dieu. Donc, puisque ces deux commandements regroupent toute la loi de tout ce que nous devons faire, alors lorsque nous obéissons à ces commandements, nous demeurons dans l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas juste d'avoir un amour plus grand lorsque nous sommes dans sa présence, comme par exemple à l'église, ou que lorsqu'on est dans une conférence avec d'autres chrétiens. Mais le fait de demeurer, justement, implique que nous restons dans cet amour, que nous poursuivons notre marche quotidienne, nous progressons dans cet amour. Aujourd'hui, demain, la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante, etc. C'est notre but, justement, envers notre Dieu, c'est de demeurer dans son amour durant toute notre vie, en lui obéissant dans les commandements qu'il nous donne et dans la volonté qu'il a pour nous. Même dans le même chapitre du verset 15 de Jean, Jésus va aller plus loin encore en disant à ses disciples au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Trop de croyants, justement, de chrétiens parlent et chantent leur amitié avec Dieu, tout en vivant dans la désobéissance face à lui. Notre relation, justement, d'amour, d'amitié envers notre Créateur, envers notre Seigneur, doit être sincère et juste. Si on veut rester dans ses commandements, alors nous allons vivre, comme on a vu, le réel amour de Dieu. On va demeurer dans son amour. Mais Jésus va dire que celui qui fait ce qu'il demande, ce qu'il commande, celui-ci est son ami. On n'est plus appelé juste des serviteurs, on n'est pas juste appelé des disciples. Nous sommes les amis de Jésus, nous sommes les amis de Dieu. Dans le milieu juif, c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup de Dieu dans le vrai terme, parce qu'il y avait tellement d'honneur, de respect, qu'on n'osait pas dire le véritable nom de Dieu. Et le fait d'être un ami de Dieu, c'était quelque chose d'invraisemblable, parce qu'il y avait ce respect, cette vénération, cet honneur qu'on devait à Dieu. Mais on voit dans la parole de Dieu qu'il y a quelques personnes qui ont été citées comme des amis de Dieu. On le voit par exemple Abraham ou Moïse. Et on va regarder justement l'exemple d'Abraham, de voir comment que ça lui a pris du temps avant de devenir un ami de Dieu. Comment que Dieu lui avait donné aussi des choses à obéir, qu'il a fait, pas entièrement, et qu'il y a eu des conséquences aussi dans sa vie. Mais comment qu'il a appris, il a été changé aussi par le Seigneur. Alors, ouvrons notre Bible dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. On voit le début de l'histoire d'Abraham. Alors, au début, il s'appelait Abraham et Dieu lui a donné après le nom d'Abraham. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Donc ce verset nous montre ce que Dieu demande à Abraham avant qu'il devienne Abraham. Ce qu'il devait faire pour réaliser cette promesse, c'est-à-dire devenir l'ancêtre d'une grande nation. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, il n'a toujours pas d'enfant. Qu'il va devenir un homme important et sera une bénédiction pour beaucoup de personnes. Lorsqu'on entend cela de Dieu, on veut accomplir ses commandements, comme il dit, quand lorsque justement il nous fait des promesses qui se réalisent dans notre vie, on veut les réaliser, on veut obéir. Alors que fait Abraham? Il part de son pays, donc cela il l'a fait. Il devait quitter son peuple, ça aussi il l'a fait. Il devait quitter la maison de son père, ça il ne l'a pas fait entièrement. Regardez quelques versets auparavant, dans Genèse chapitre 11, verset 31. Genèse chapitre 11, verset 31. Il est parlé du père d'Abraham. Terah partit d'Ur des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran et Sarah, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Donc Terah a persuadé Abraham de se joindre à lui pour aller en direction de Canaan. Cependant, ils n'ont jamais dépassé Haran. Ils ne sont pas été jusqu'à Canaan. Ils se sont arrêtés et se sont installés là. Et c'est lorsque le père d'Abraham est mort, Abraham a continué vers Canaan avec sa famille et Lot, son neveu. On peut le voir dans Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Donc Abraham devait faire trois choses pour entrer dans la promesse. Quitter son pays, quitter son peuple et quitter la maison de son père. Pourquoi que Dieu a demandé ces choses-là? Il voulait voir si Abraham était prêt à obéir à Dieu. Il a demandé des choses qui n'étaient pas faciles. De quitter son pays, ce n'est pas évident. De quitter son peuple avec qui il avait la même culture, avec qui il avait une ressemblance. Et quitter la maison de son père. Il a écouté Dieu, Abraham. Il a suivi ses commandements, mais sur un point, il n'a pas été entier. Sa famille était trop importante pour lui. Donc, il pensait que Dieu, peut-être, allait comprendre cela et que ça allait arriver. Mais rappelez-vous par la suite, qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? Il y a eu des tensions, la bisbille avec Lot. Puis d'autres choses sont arrivées à cause de la désobéissance. Je suis persuadé que justement, le fait qu'il n'a pas obéi entièrement, il y a eu les conséquences. Même si peut-être on n'a pas toutes les récits d'Abraham. Abraham a placé sa famille avant Dieu. Alors que Dieu l'avait dit clairement de ne pas le faire. C'était une idole pour sa vie. Voilà pourquoi que justement pourquoi Dieu a dit, quitte la maison de ton père. Ta famille est trop importante. Je ne vais pas pouvoir accomplir ta promesse si tu restes avec ta famille. Abraham va apprendre à la dure. Lorsqu'on n'accomplit pas ce que Dieu nous demande, il y a des conséquences, des choses qui arrivent que nous ne pouvons surtout des fois pas contrôler. Alors qu'est-ce que Dieu, dans le prochain diable, fait à Abraham pour voir si l'obéissance à Dieu est avant sa famille? Bien des années plus tard, Dieu va tester Abraham. Genèse chapitre 22, verset 1 et 2. Genèse chapitre 22, verset 1 et 2. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham, et celui-ci répondit, « Me voici, prends Isaac ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Imaginez, Abraham, c'est le fils de la promesse. C'est le fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Et là, Dieu lui dit, tu vas me sacrifier. Mais non, Seigneur, écoute, il y a plein d'animaux, je peux donner plein de choses et tout ça. Non, je veux ton fils, ton fils. Abraham a été jusqu'au bout, a été prêt de prendre le couteau pour sacrifier son fils. Et lorsque Dieu a vu qui était jusqu'au bout, il l'a arrêté et il lui a donné un bélier à côté. Cette fois-ci, Abraham, avec les marches, avec les années de marche avec Dieu, avec tous les défis qu'il a vus, qu'il a vécu, il a compris ce que Dieu demandait et il a mis Dieu en premier. Dieu va peut-être vous tester, va voir si vous êtes prêt à lui obéir dans quelque chose qui vous est cher, qui vous est difficile peut-être à abandonner. Dieu va vous demander son obéissance complète et peut même exiger quelque chose que vous avez trop à cœur, que nous sommes des fois trop attachés. Ça peut être justement de sortir notre pays, de pays notre natal, de lui faire confiance en tout point de vue. Plusieurs personnes ont quitté leur pays. Moi-même, je l'ai quitté il y a plus de 27 ans. Ça n'a pas été facile, mais j'ai été par la foi pour pouvoir obéir à ce que Dieu me demandait. Peut-être certains, c'est de quitter leur propre famille, afin qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu. Peut-être pour certains, c'est de renoncer à une carrière professionnelle qu'on a dans notre tête pour le suivre et le servir. Peut-être pour certains, c'est donner tout notre argent, nos possessions, nos richesses, afin de servir en toute liberté sans contrainte. Dieu sait ce qui peut nous empêcher de le suivre entièrement et il va nous demander de tout le remettre. Comme Abraham, Dieu va nous donner des promesses qui nous sont rattachées, que nous allons faire pour lui si nous sommes prêts à obéir entièrement. Donc, comme nous l'avons vu auparavant, lorsqu'on obéit à ses commandements, alors nous devenons un ami de Dieu. Comme Abraham, avec le temps, a appris, a été transformé. Le Seigneur veut qu'on marche justement dans ses pas, que nous apprenions à lui obéir et qu'on devienne un ami pour avec Dieu. Rappelez-vous d'Abraham. Comment qu'il a été capable de changer la volonté de Dieu. À un moment donné, rappelez-vous que Dieu parle avec lui et va le mettre sur la colline, voir Sodome et Gomorre. Et il dit, je vais partager à Abraham ce que je vais faire à cette ville à cause de la méchanceté du cœur. Donc il dit, je vais détruire cette ville. Et là, Abraham prie et intercède. Seigneur, si tu as 50 juifs, est-ce que tu vas le détruire? Ok, non, je ne vais pas le faire. 45, non. 40, 30, 20. Il va jusqu'à 10. Seigneur, mais s'il y a juste 10 justes, est-ce que tu vas la détruire? Non, je ne vais pas la détruire parce que tu me demandes. Dieu veut partager notre cœur, son cœur avec nous. Il veut nous parler comme un ami. Comment on parle avec un ami avec qui on se confie? Mais pour cela, il veut que nous puissions lui obéir entièrement. Il veut que nous puissions lui faire confiance en tout, de marcher dans ses commandements avec foi, avec intégrité. Alors pour terminer, ouvrons notre Bible dans le livre de Josué, où Dieu va répéter à Josué, qui est le nouveau leader qui va remplacer Moïse. Rappelez-vous, après plus de 40 ans dans le désert, Josué était à côté de Moïse, était le leader à côté, qui a grandi avec Moïse, qui a appris. Et là, Moïse est décédé et il doit continuer maintenant à avancer le peuple pour pouvoir conquérir le pays de la promesse. Ils ont attendu 40 ans à tourner dans le désert. Et Dieu sait très bien que Josué a besoin de courage. Dieu sait très bien qu'il faut que le peuple reconnaisse dans Josué qu'il est le véritable leader. Regardez, Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Il dit, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Méditez jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. » Dieu va répéter que si Josué lit et médite le livre de la loi, la parole de Dieu, pour ensuite y obéir et l'appliquer, alors il aura du succès. Alors il va réussir dans ses entreprises et il va prendre possession du pays promis. Dieu veut nous répéter ce matin à chacun de nous que si cette parole de Dieu que nous avons dans la Bible, si nous la lisons, si nous la méditons, afin de la comprendre, afin de discerner ce que Dieu veut pour nous, alors nous allons marcher dans la volonté de Dieu si justement nous l'appliquons et nous obéissons. Nous allons réussir dans tous les projets, dans tout ce que nous allons entreprendre. Dieu a les mêmes promesses qu'avant. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Mais pour cela, il demande de lui obéir. Il demande de dire, je t'ai donné aujourd'hui la parole. Lis-la, médite-la. Permets qu'elle puisse grandir en toi, puisse la marcher, comme on pourrait dire, pour qu'elle puisse faire effet en toi. Mais ensuite, il faut l'appliquer, il faut la mettre en pratique. Dieu veut nous donner le succès dans nos affaires. Ce n'est pas juste que Dieu veut nous bénir parce que Dieu est, oui, grand. Il y a trop de gens qui cherchent les bénédictions de Dieu, qui courent même après des évangélistes, des pasteurs pour recevoir une bénédiction de Dieu. Ça, c'est éphémère. La véritable possession de la bénédiction de Dieu, c'est lorsqu'on obéit, lorsqu'on applique ce que Dieu nous demande de faire. Il faut entendre le Saint-Esprit nous parler à travers la parole de Dieu, à travers d'autres manières comme nous l'avons vu aussi dans ces dernières semaines, pour ensuite le mettre en pratique. Donc comme nous avons vu les personnages que nous avons vus la semaine passée avec Saül, qui avait bien commencé, qui avait obéi, qui était tout petit, qui avait été mis comme un roi, le premier roi d'Israël, mais qui après un certain temps a commencé à prendre une certaine liberté de comment suivre Dieu, qui a obéi à Dieu un petit peu, mais après petit à petit, il s'est détourné de lui. Et on sait comment il a terminé. Comme Abraham aujourd'hui, qui a reçu des instructions qui sont claires, précises, de ce que Dieu attendait de lui, qui n'a pas entièrement obéi au début, mais qui par la suite a pu démontrer qu'il avait changé, y compris en acceptant de faire mourir son fils unique, celui qu'il aimait. Il est devenu l'ami de Dieu, parce qu'il s'est laissé transformer par le Seigneur, a mis sa confiance en Dieu seul, et il est devenu un grand homme de Dieu. Par l'exemple de Josué, qui nous démontre que lorsqu'on lit sa parole, lorsqu'on la médite pour la mettre en pratique dans la foi et dans l'obéissance, alors on va réussir dans nos projets, on va avoir du succès. Alors simplement courbons notre tête. Je m'en vais inviter le groupe de louanges, on veut qu'on chante un chant qui nous dit qui veut nous attirer à lui. Nous avons besoin ce matin de dire, Seigneur, je vois l'exemple de Saül qui a bien commencé, mais qui à un moment donné s'est détourné de toi. Les conséquences aussi de son péché. J'ai vu aussi, Seigneur, Abraham, que tu avais donné aussi des choses précises, qui a obéi, pas tout entièrement, mais comment tu l'as testé, comment que tu l'as mis à l'épreuve et qu'il a réussi ce test parce qu'il avait compris de marcher avec toi. Le Seigneur veut nous dire ce matin, laisse-moi t'approcher, je veux vraiment t'attirer à moi. Je veux que tu puisses grandir. Je veux que tu puisses continuer d'obéir. Je veux que tu puisses continuer de lire la parole et d'aller chercher la nourriture nécessaire pour grandir, pour connaître mieux ma volonté pour toi. Alors, Seigneur, le Seigneur veut nous dire ce matin, il faut faire ce pas d'obéissance. Peut-être que le Seigneur veut nous dire, avant qu'on prenne la Sainte Cène, quelque chose peut-être qui nous tient trop à cœur, quelque chose qu'on n'arrive pas, que Dieu peut-être nous dit depuis longtemps, quitte ceci. Donne-moi ça. Ça prend trop de place dans ta vie. Trop de temps sur Internet, trop de temps à la télévision, trop de temps pour faire certaines choses, au lieu de prendre du temps avec toi. Ça peut être tout à fait autre chose. La richesse, l'argent, peut-être l'orgueil de la vie, peut-être notre carrière professionnelle ou d'autres choses. Le Seigneur veut nous dire, si tu m'obéis ce matin, alors tu vas réussir. Alors tu vas apprendre des choses incroyables. Alors simplement, courbons notre vie ce matin, notre cœur, et restons pour que nous puissions voir ce que le Seigneur veut nous dire. Prenons ce chant et que vous puissiez dire, confessez devant le Seigneur s'il y a quelque chose qu'on doit abandonner. Pendant qu'on va prendre la Sainte Cène, c'est l'occasion justement. Dieu veut à travers la Sainte Cène, ce n'est pas juste un rappel de ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Dieu veut encore nous pardonner. Dieu veut encore restaurer notre vie. C'est l'occasion de dire, Seigneur, quand je prends, je rappelle tout ce que tu as fait. Tu as obéi jusqu'au dernier, sauf que tu as été sur la croix pour nous donner la vie. Je veux qu'à travers ces éléments, je puisse être pardonné. Je puisse te prendre un nouveau engagement envers toi. Dans cette année 2023, d'encore de marcher d'une façon juste et digne devant toi. D'obéir à ce que tu me demandes de faire. Même si je n'arrive pas à comprendre, même si je n'ai pas assez de foi pour le faire. Mais je veux obéir et je veux marcher et tu vas me donner la foi. Tu vas me donner aussi la confiance pour avancer. Alors simplement, courbons notre tête. Restons dans cette attitude de prière, d'écoute du Seigneur, du Saint-Esprit ce matin.